Audiolib présente Underground Railroad. The Colson Whitehead. Lu par Aïssa Maïga. Pour Julie. Adjari. Chapitre 1. La première fois que César proposa à Cora de s'enfuir vers le nord, elle dit non. C'était sa grand-mère qui parlait à travers elle. La grand-mère de Cora n'avait jamais vu l'océan jusqu'à ce jour lumineux dans le port de Ouida où l'eau l'avait éblouie après son séjour dans les cachots du fort. C'est là qu'ils avaient été parqués en attendant les navires. Des radieurs dahoméens avaient d'abord kidnappé les hommes, puis étaient revenus au village à la lune suivante, rafler les femmes et les enfants, qu'ils avaient fait marcher de force jusqu'à la mer, enchaînés deux par deux. En fixant le seuil noir, Adjari crut qu'elle allait retrouver son père dans ce puits de ténèbres. Les survivants de son village lui expliquèrent que lorsque son père n'était plus parvenu à tenir le rythme, les marchands d'esclaves lui avaient défoncé la tête et avait abandonné son corps sur le bord de la piste. Sa mère était morte bien des années plus tôt. La grand-mère de Cora fut revendue plusieurs fois sur le chemin du fort, passant d'un marchand à un autre, troquée contre des coris et de la verroterie. Impossible de dire combien on paya pour elle à Ouida, car elle fit partie d'une vente en gros. 88 âmes contre 60 caisses de rhum et de poudre, un prix arrêté après les marchandages habituels en sabir d'anglais. Les hommes valides et les femmes fertiles rapportaient plus que les juvéniles, ce qui rendait difficile une estimation individuelle. La Nanny, en provenance de Liverpool, avait déjà fait deux escales sur la côte de l'or. Le capitaine échelonnait ses achats pour ne pas se retrouver confronté à une cargaison d'origine et de mentalité identiques. Dieu sait quelle mutinerie ces captifs risqueraient de concocter s'ils partageaient une langue commune. C'était la dernière escale du navire avant sa traversée de l'Atlantique. Les marins aux cheveux jaunes y conduisirent Adjari à la rame en fredonnant, la peau blanche comme de l'os. L'air délétère de la cale, le cauchemar de la claustration et les hurlements de ses compagnons de chaîne contribuèrent à la faire basculer dans la folie. Compte tenu de son âge tendre, ses ravisseurs ne lui infligèrent pas immédiatement leur désir, mais après 6 semaines de traversée, quelques matelots aguerris l'arrachèrent à la cale. 2 fois, elle tenta de se tuer pendant ce voyage vers l'Amérique, d'abord en se privant de nourriture, puis en essayant de se noyer. Et par 2 fois, les marins contrecarrèrent ses plans, habitués qu'ils étaient aux manigances et aux penchants du cheptel. Adjari n'atteignit même pas le plat-bord lorsqu'elle voulut se jeter à la mer. Sa posture géniarde, son air pitoyable, semblable à ceux de milliers d'esclaves avant elle, trahirent ses intentions. Enchaînée de la tête aux pieds, dans une misère exponentielle. Ils eurent beau tout essayer pour ne pas être séparés lors des enchères à Ouida. Les membres de sa famille furent achetés par des marchands portugais de la frégate Vivilia, qu'on retrouva 4 mois plus tard, dérivant à 10 000 au large des Bermudes. La peste avait gagné tous ceux qui étaient à bord. Les autorités mirent le feu au navire et le regardèrent se fissurer et sombrer. La grand-mère de Cora ne sut rien du sort de la frégate. Toute sa vie, elle s'imagina que ses cousines et ses cousins travaillaient plus au nord, pour des maîtres bons et généreux, voués à des tâches plus clémentes que les siennes, du tissage ou du filage plutôt que les travaux des champs. Dans ces histoires, Isaïe, Sidou et les autres parvenaient miraculeusement à acheter leur liberté pour vivre en hommes et femmes libres dans la cité de Pennsylvanie, un endroit dont Adjari avait un jour appris l'existence en surprenant une conversation entre 2 Blancs. Ses rêves lui procuraient du réconfort quand son fardeau menaçait de la réduire en 1000 morceaux. Puis la grand-mère de Cora fut revendue après 1 mois passé dans le lazaret de l'île de Sullivan,